Revue de presse de l'April, semaine 47, année 2013. Salut Manu.
Salut Anthony.
Salut à tous.
Donc du nouveau, un nouveau Anthony qui nous rejoint pour la revue de presse. Heureusement, puisque Nicolas est coincé dans les embouteillages. Mmh. Eh bien, bienvenue Anthony. Donc, tu vas commenter avec nous la revue de presse. Qu'est-ce qu'on a au sommaire cette semaine, mon Manu ?
Sept jolis articles, une grosse actualité institutionnelle, avec plein de sujets qui parlent aussi de l'April, puisqu'on est, à la pointe de ces débats. Donc, on va commencer avec les problématiques sur la surveillance et les technologies américaines, en particulier avec le Parlement européen, le brevet unitaire, la loi sur la consommation et les DRM, la TVA et des e-books, les DRM, alors là un truc particulier dans des voitures, l'administration et les logiciels libres, et pour finir, un petit truc assez rigolo qui s'est passé au Parlement sur un amendement pour les licences.
Alors il faut quand même qu'on assure le service après-vente et qu'on mentionne quelque chose qui est dans les articles secondaires mais qu'on avait évoqué ces dernières semaines, qui est Linus Torvalds a-t-il, oui ou non, eu des demandes de la part de la NSA pour mettre une backdoor dans Linux ?
Et donc la réponse, c'est oui, d'après son père.
Oui, son père est député européen.
Nils Torvalds.
Torvalds, il y a un S à la fin. Et il nous explique que son fils a été naturalisé aux États-Unis. Enfin, il est donc américain et donc il est sous le joug de la loi américaine. Donc il ne peut pas s'exprimer librement là-dessus, mais son papa l'a fait à sa place.
Donc ça avait été le cas en fait dans une conférence où il avait été interrogé effectivement sur la possibilité de backdoor au sein de Linux. Il avait répondu assez adroitement en disant bien sûr non, mais en hochant la tête, donc ce qui avait déclenché une certaine hilarité dans l'assistance, mais laissé planer un certain doute également sur la possibilité ou pas d'avoir une backdoor. Donc son père semble confirmer en tout cas.
Son père, député européen, ce qui doit lui donner aussi une certaine force pour parler de ces sujets.
Une certaine crédibilité, oui.
Et là, en plus, gros sujet qui nous tombe dessus, le Parlement européen se rebelle parce qu'il y a des surveillances qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est l'article de Slate.
Slate.fr, l'Europe doit-elle se désintoxiquer des technologies américaines ? Un article d'Amaël Guiton.
Donc c'est un bon article, assez conséquent, et justement, désintoxication des technologies américaines, c'est bien de ces sujets-là dont il s'agit, c'est que le Parlement lui-même est à la merci des outils qu'ils utilisent, du Microsoft et autres bêtises, et donc il est assez facile, et ça a été montré par des gens, alors je crois que c'est Mediapart notamment, ils ont eu un hacker qui s'est promené au Parlement, et qui a réussi assez facilement à aller lire les mails des députés.
Effectivement, ça a été donc il est arrivé avec un petit boîtier avec une configuration relativement simple, a pu piocher donc les données livrées par les serveurs Exchange utilisés donc par le Parlement. Ça s'est fait en relativement peu de temps.
Je crois qu'il a récupéré plus ou moins les connexions Wi-Fi des députés et qui s'est connecté dessus. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une réaction officielle en disant « Oui, mais alors ça pourrait arriver chez vous, c'est vraiment un truc qui peut toucher tout le monde. »
Mais tout à fait.
Oui, sauf que là, ce sont quand même des députés européens, donc on pourrait peut-être s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus sécurisé et un peu plus contrôlé que la connexion de Monsieur Tout-le-Monde.
Moi, ce que j'apprécie, c'est cette remarque et cette réaction. Oui, on s'est fait avoir. Et effectivement, les logiciels qu'on utilise sont privateurs, vous empêchent de contrôler vraiment ce que vous faites. Et des associations sont sur le créneau, l'AFUL, l'April.
Et la FSFE également.
Et la FSFE, parce que c'est des sujets qui nous touchent au plus haut point. Et là, bien, on s'en rend compte, on se rend compte que on est vulnérable. Donc peut-être enfin des réactions dans le bon sens de nos chers députés.
Alors une réaction intéressante aussi de la part donc d'un cryptanalyste, Eric Filliol, qui dit que finalement, tout confier à Microsoft, c'est leur donner entièrement les clés de notre infrastructure.
En tout cas, c'est une bonne chose qu'un personnage comme lui prenne une position aussi franche là-dessus. ZDNet, brevet unitaire, incompétence et je m'en foutisme des sénateurs, un article de Christophe Auffray. Qui ose parler de nos glorieux sénateurs de cette façon-là ?
Oui, le titre est un beau troll, mais en même temps, le sujet est important et ils ont marché dedans, parce que là, ils ont fait une bêtise.
Et tu réponds pas à la question, qui ose utiliser ces termes-là ? C'est pas quand même très...
Je m'en foutisme. C'est pas très respectueux. C'est pas quelqu'un de chez nous ?
Si, un petit peu. C'est Frédéric Couchet, notre délégué général. Bon, y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony ?
Visiblement, Luc, l'accord a été ratifié en quelques minutes sans aucune discussion. Donc c'est pour ça que Fred s'est élevé.
Et oui, un accord qui touche les brevets logiciels parce qu'effectivement, il s'agit d'unifier le système de brevets en Europe.
C'est bien.
Sur le principe, on n'est pas du tout contre, au contraire. Il se trouve que, malheureusement, ça donne encore plus de pouvoir à l'Office européen des brevets, qui ne sont pas des gentils de notre point de vue, puisque ça fait des années qu'ils accordent des brevets logiciels, c'est-à-dire qu'ils donnent des monopoles sur des idées, des vraies idées. Il se trouve que ces brevets ne sont pas utilisés et utilisables aujourd'hui, ils sont même illégaux du point de vue de la loi européenne, mais malheureusement, l'EEB continue à les délivrer à tour de bras.
Voilà, et puis ils ont une dynamique qui est complètement perverse par rapport au principe des brevets, hein, qui est notamment de faire un max de brevets. On se rappelle qu'il y a à peu près un an, ils avaient eu une grève de la part des gens qui bossent à l'EEB en disant, parce qu'en fait, ils leur avaient filé une prime. Et c'était une prime de résultat, l'EEB a fait de l'argent. Et donc on dit, on a fait de l'argent, on vous en donne. Et eux disaient, mais nous, on n'est pas là pour faire du rendement, on est censé faire un travail de tri et de conseil, on n'est pas censé délivrer un max de brevets. Donc ça montre bien toute la perversion du système qui s'est mis en place. PC Impact, les consommateurs seront-ils avertis de la présence de DRM? Un article de Marc Ress.
Alors là encore, les institutions françaises et européennes, parce qu'il s'agit de faire descendre dans la loi française, il me semble, des principes sur la consommation.
Voilà, une sorte de directive, je crois, qui dit en gros que le consommateur doit être informé des limitations qu'il peut y avoir dans ce qu'il achète.
En tout cas, dans ce qui nous intéresse, et c'est vrai que c'est intéressant, on est à fond pour que les consommateurs soient au courant.
Effectivement, comme au niveau des e-books, par exemple, où le consommateur peut éventuellement être au courant, c'est une bonne chose de le démocratiser, en tout cas, l'information au consommateur.
Surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que c'est l'information sur les limitations qu'il y aurait à l'usage d'un produit, donc les DRM, les monotes numériques, Digital Rights Management, la gestion des
mesures techniques de protection.
Oui,
en français,
on pourrait dire ça en français, effectivement. Donc des blocages qui sont souvent faits à votre insu. Et typiquement, vous achetez un DVD, vous pouvez le lire peut-être pendant un mois, deux mois sur un certain lecteur, mais dans certaines conditions, et elles sont relativement nombreuses, ce DVD ne fonctionnera plus, les autres lecteurs vont le refuser. Pour des raisons qui vous sont parfois inconnues, et il se trouve que ces mesures techniques de protection, elles peuvent être là sans que vous en soyez informé à aucun moment de votre achat.
En fait, ça fait d'une certaine manière passer le consommateur de l'état de propriétaire de l'outil ou de l'application ou du CD ou de la musique à un état de locataire. Enfin, il loue sa musique, son outil ou autre.
Il loue le droit de l'utiliser, ce qui est même encore pire. Et
avec assez peu de garantie de pouvoir garder ce droit dans la durée, etc., puisque ça peut s'arrêter un peu quand le fournisseur le veut.
Et donc là, on est rageant parce que, justement, la directive n'est pas bien passée dans le droit français d'après les propositions qui sont faites.
Et ils ont un petit peu envie de ne pas trop s'embêter avec ça parce que, forcément, les industriels, ils ont envie de mettre des DRM, ils veulent pas qu'on les embête, ils veulent pas que cette grosse arnaque se voit. Et il y a un député qui est monté au créneau, c'est Lionel Tardy, qui est un député UMP. Et bon, il a rué dans les brancards, c'est un député qui connaît très bien les sujets d'informatique en général. Et donc, qui montre que tout ça ne tient pas la route, et on l'appuie tout à fait dans cette démarche.
Alors, le gouvernement insiste, oui, il y aura bien information du consommateur pour ce qui concerne la présence d'éventuels DRM, mais ce sera défini dans des décrets et pas dans la loi. Donc, certes, c'est possible que ce soit le cas, mais on en rage un peu parce qu'il aurait dû y avoir ça.
Le gouvernement fera ce qu'il voudra de toute façon, puisque ce sera un décret, et que là, c'est lui qui décide. PC Impact, à nouveau, le gouvernement ne veut pas taxer plus lourdement les e-books avec DRM. Un article de Marc Ress à nouveau, c'est la suite du feuilleton.
Oui, c'est la suite du feuilleton. Je rajouterais, on a quasiment un jumelage avec PC Impact. Il se trouve qu'ils ont plein d'articles intéressants en ce moment. Marc Ress, c'est quelqu'un qu'on apprécie, hein, n'est-ce pas?
En général, il fait de très bons articles. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de neuf. Hein.
Il se trouve que c'était un des sujets de la semaine, mais que ça continue de la semaine d'avant.
C'est intéressant de voir que ça continue à faire du bruit. Bon, on va pas s'étendre de plus de là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans l'article.
Il y a des DRM, il y avait des TVA dont il était proposé qu'elles soient pas les mêmes quand on loue un droit de lecture plutôt que quand on achète un livre, même électronique. Bon, malheureusement, c'est tombé à la trappe.
Ça s'est terminé à la fois à l'Assemblée puis au Sénat, donc.
Oui, il semblerait que...
L'amendement était retiré, donc ce sera plus discuté.
Alors, on ne sait jamais, ça pourrait revenir par la porte de derrière, mais pas pour l'instant. Par contre, un sujet plus intéressant, plus amusant, moi, j'ai adoré.
Numérama, des DRM intrusifs dans la voiture électrique Renault Zoé. Un article de Guillaume Champeau, avec un point d'interrogation à la fin du titre quand même, parce que, faut le préciser, mon ton n'était pas très explicite là-dessus. Donc il y a des gens qui disent que cette voiture électrique est un dispositif qui permettrait à Renault de couper le jus, puisque sur les voitures électriques, la batterie est très chère, donc elle est mise en location, et un dispositif qui permettrait à Renault de couper la batterie à distance si on ne paye pas la facture.
Alors ça, c'est des choses qui ont été évoquées à cause des contrats, de ce que je comprends. Et dans ces contrats, il y a effectivement des permissions, des autorisations de coupure. Mais Renault assure que non, jamais ils n'utiliseront ce genre de capacité.
Mais c'est une possibilité qui laisse planer une sorte d'épée de Damoclès, finalement, sur l'acheteur de cette Zoé.
Ça peut arriver de mettre des trucs dans des contrats comme ça, par pure mégarde, hein ?
Oups !
N'est-ce pas ?
Moi, ce que j'adore, c'est que là, les DRM, donc les menottes numériques, le contrôle à distance, souvent, des industriels sur les consommateurs, eh bien là, on a quelque chose de concret, c'est pas du logiciel, c'est pas des médias, c'est une batterie de voiture, et donc la voiture, hein, voiture on électrique. Peut le dire, qui peuvent être bloquées, en théorie, à distance. En tout cas, ils en ont le droit légalement. Contractuellement, c'est quelque chose d'assez fort. Et là, bah, dans la voiture, mince, c'est au-delà des habitudes.
On va vers une électrisation, si je puis dire, de plus en plus poussée vers les voitures. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut rapidement s'insurger si on ne veut pas que ça soit présent, en tout cas, dans l'ensemble des autres voitures.
Pour moi, ça a relativisé parce que si on prend notre facture de téléphone ou d'internet ou d'électricité, si on paye pas, on se fait couper le truc. Alors évidemment, pour l'électricité, le gaz, en attendant les compteurs dits intelligents, il faut que quelqu'un se déplace, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on paye pas son téléphone, on se fait couper le téléphone direct.
Mais effectivement,
donc Renault pourrait dire, bah moi je loue un service, les gens ne payent pas, je coupe.
C'est la différence entre un
pourquoi.
Service et un produit acheté. T'as raison d'un côté. Hein. Mmh. Là, puisque c'est un service, eux se permettent, de la même manière qu'avec des e-books, avec des DRM, c'est un service de lecture, on vous autorise un droit de lecture, hein. Et bien là vous avez l'autorisation d'utiliser la batterie, autorisation qui peut être levée à tout moment.
Alors voilà, est-ce que c'est à tout moment ou est-ce que c'est à chaque mois?
Je ne sais pas, c'est défini dans le contrat, il faudrait le lire.
Si je suis en milieu de la route pour me rendre à mes vacances, effectivement.
Oui, ils sont quand même un peu raisonnables. Mais bon, le milieu de l'automobile, alors ça illustre aussi le fait que l'informatique aujourd'hui est partout. Et je ne sais plus qui avait dit qu'une voiture c'est un ordinateur avec des roues, et que aujourd'hui l'informatique elle est partout. Donc tous ces systèmes de contrôle ont une influence et vont avoir une influence de plus en plus importante sur tous nos aspects de la vie. Et ça c'est pour moi quelque chose, enfin que cet article illustre et qui est vraiment important. Et dans le domaine automobile, on sait que cette question du verrouillage, il est pratiqué depuis très longtemps puisqu'ils ont mis en place des clés spéciales pour que seuls les concessionnaires puissent démonter les voitures. À partir du moment où les voitures étaient de plus en plus informatisées, il a fallu avoir des équipements spécifiques pour faire du diagnostic et de la réparation, et tout ça pour verrouiller, enfermer les utilisateurs dans leur réseau, et on voit une parfaite illustration de ce qu'on connaît dans l'informatique, dans le domaine de la bagnole, et eux, ils ont mis en place depuis très longtemps. Le Mag IT, logiciel libre dans l'administration, le préfet de l'Isère s'en mêle, un article de Cyril Chausson.
Et une bonne nouvelle, ça fait du bien. Il se trouve que l'April se bat sur ce sujet-là depuis longtemps, les marchés publics, où il ne faut pas, de notre point de vue et du point de vue de la loi, faire mention explicitement d'une compagnie, d'une société ou même d'un logiciel privateur, puisque souvent c'est associé à une société en particulier. Et donc, il ne faut pas que les administrations, notamment, fassent des appels d'offres qui sont non neutres, on va dire, qui sont vraiment orientés sur déjà la personne à laquelle ils vont fournir cet appel d'offres. Donc les logiciels libres ne sont pas bloquants. En effet, n'importe qui peut faire un appel d'offres, peut lancer des marchés publics qui incluent des références à des logiciels libres en particulier. Toutes les entreprises peuvent y répondre, donc c'est très ouvert.
Oui, puisque le code est ouvert, même Microsoft peut répondre à un appel d'offres qui demande du logiciel libre.
Et là, pour le coup, grande nouvelle, le préfet de l'Isère, eh bien lui, il dit, voilà, il faut appliquer ces règles-là, ce qui ne devait pas être le cas dans tous les cas, loin de là, et donc suivre les directives, suivre la circulaire RO qui met en avant justement les logiciels libres dans les administrations, essayer un petit peu de mieux s'organiser, de mieux travailler avec les bons outils.
Bon, c'est assez rigolo de voir le préfet qui est comme le représentant du gouvernement, hein, de l'administration centrale, aller faire la morale aux collectivités territoriales quand le ministère de la Défense passe un accord open bar sans faire d'appel d'offres.
Une sacrée épine ce truc-là.
PC Impact, les licences libres, poil à gratter de la PPL sur la contrefaçon, un article de Marc Ress. La PPL, c'est quoi ?
Et je ne sais pas du tout, c'est pas super bien indiqué dans l'article, ou tout simplement on n'a pas les yeux en face des trous, mais en tout cas c'est quelque chose de sympa.
Projet de ou ce genre de choses. Donc les Verts ont passé un amendement qui ressemblait un petit peu à celui des DRM dont on parlait tout à l'heure, qui veut reconnaître dans les lois sur la contrefaçon des logiciels que des gens qui ne respecteraient pas les dispositions copyleft seraient reconnus comme faisant la contrefaçon de logiciels, donc aligner le non-respect des licences libres sur la loi sur la contrefaçon. Donc c'est pas mal dans l'idée, mais il y avait un petit souci dans leur proposition.
C'est peut-être un peu fort, et c'est peut-être mettre de côté tout un autre pan des logiciels libres qui ne sont pas forcément sous copyleft, c'est-à-dire qui n'assurent pas la liberté et qui n'empêchent pas de propriétariser un logiciel libre.
Ça veut dire que quand on fait des modifications, on n'est pas obligé de les diffuser sous la même licence. Voilà. Et donc, du coup, c'était quand même hyper spécifique. Et puis après ça, il y a plein de petites variations dans les licences. Donc, c'est une réaction de l'April qui dit qu'on aurait préféré qu'il fasse mention des licences libres sans rentrer dans le détail. Donc, ça montre une méconnaissance des sujets. Et voilà, c'est une petite occasion ratée, c'est dommage.
En même temps, c'est des sujets très particuliers, très précis. On est assez connaisseurs. C'est pas étonnant qu'eux ne peuvent pas connaître exactement tous ces détails. On apprécie l'idée et on encourage parce que en tout cas il y a des gros travaux qui sont faits dans les bonnes directions.
Ils ont dit qu'il reviendra à la charge aussi, donc on espère que ça va se faire.
Et que les discussions vont continuer donc.
Sur ce, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.